Voilà. Alors, c'est intéressant, hein, parce que voilà deux enseignants en physique, physique-chimie, bon, hein, et ils ne connaissaient pas Roentgen. Roentgen, c'est un économiste hétérodoxe. Ça veut dire que l'économie, comme tout un tas de disciplines humaines, hein, elle a ses canons, elle a son académie, elle a ses lignes qui sont à certaines époques des lignes majoritaires, et les lignes minoritaires, ben, elles ne sont pas forcément acceptées. Et donc, Roentgen, vous l'avez vu lors de la présentation vidéo qu'on a fait avec Greenwald, a eu dans la première partie de sa carrière pas mal de succès. Ses thèses ont été... tout son développement sur la thermodynamique et l'entropie a été extrêmement bien reçu, perçu par ses pairs. Mais quand il a appliqué l'entropie et la thermodynamique à l'économie, on avait une vision d'économie qui était différente, hein, de l'économie. Alors, bon, on est toujours obligé de faire un peu de politique, de l'économie classique, libérale, capitaliste, qui n'interprétait pas du tout les choses de la même façon. Et donc, de ce point de vue, Roentgen, évidemment, n'est pas économiquement compatible avec le système croissanciste. Voilà. Bon, donc là, c'est. On va nous dire qu'on tombe dans la théorie du complot en disant on ne parle pas de Roentgen parce que, en fait, sa vision de l'économie est une vision, enfin, son analyse de l'économie arrive à la conclusion que une économie croissanciste n'a pas d'avenir, n'a pas de sens, déjà, d'un point de vue physique, et n'a pas d'avenir, hein, en tant que business model pour l'humanité. Bon. Donc, ce qui est certain, c'est que les thèses de Roentgen ne sont pas compatibles avec ce qui sous-tend le développement et la croissance, et donc tout le système de production, tout le mode de production industriel actuel dans quelques régions du monde que ce soit, et que de là à imaginer qu'on a au niveau des instances qui, non pas dirigeantes, mais qui diffusent la formation, et l'éducation, qui est une mise à l'index, ou tout au moins une ignorance, une occultation de Roentgen, il n'y a qu'un pas. Je prendrai comme exemple le mien. D'abord, j'ai fait l'ESSEC. Lorsque vous intégrez une école de commerce comme l'ESSEC ou HEC, ça va être pareil aussi pour des grandes écoles d'ingénieurs comme l'IX Centrale, etc. Bon, vous êtes
formaté.
Très clairement, formaté. Vous êtes très clairement destiné, ou l'ENA, vous êtes très clairement destiné à faire marcher le système tel qu'il est. Vous n'êtes pas là pour le mettre en cause ou pour le modifier. Si on avait une analyse défectuologique du système disant qu'il ne marche pas, peut-être qu'on dirait, écoutez, les gars des grandes écoles, trouvez-nous un système. Mais non, on nous dit d'emblée que le système marche bien, que le seul objectif, c'est de faire marcher encore plus. Donc la machine fonctionne, on explique comment elle fonctionne, comment le piston est, et tout notre travail, ça va être d'augmenter la combustion. Alors si on compare, et j'aime bien faire cette comparaison, j'ai dû l'amorcer déjà un petit peu la dernière fois, si on compare production économique, le mode de production économique à une combustion, on a l'image du triangle du feu, un triangle du feu, triangle équilatéral à trois côtés, avec le carburant, le comburant et l'accumulateur. Le carburant, c'est les ressources naturelles finies, et notamment les hydrocarbures. Le comburant, c'est les consommateurs. Et l'activateur, c'est le capitalisme. Donc, les trois paramètres sont des paramètres qui sont constitutifs de cette fameuse combustion économique donc le mode de production de la société industrielle. L'activateur, c'est le capitalisme. Alors, c'est pas un gros mot, capitalisme. Hein, c'est un. Alors, peut-être que on en viendra à définir très précisément ce que c'est le capitalisme. C'est le problème avec tous les mots extrêmement génériques, comme capitalisme, comme liberté, justice, démocratie.
Hein,
bon, c'est facile, tout le monde comprend, mais on n'a pas forcément la même définition, si tant est qu'on ait réfléchi à une définition de ce qu'est le capitalisme. Donc, pour l'instant, on va pas, on y arrivera forcément, hein, puisque on verra que le problème économique, hein, c'est la façon dont on mène l'économie, et la façon dont on mène l'économie, c'est une façon. Pour moi, c'est une construction juridique, le capitalisme. Mais bref, en tout cas, c'est l'activateur du triangle du feu. Et cet activateur, qu'est-ce qu'on dit au fer de lance de l'économie française, comme on appelle les élèves des grandes écoles de commerce et d'ingénieurs aussi, parce que il faut quand même bien voir, vous êtes scientifique, mais il faut bien voir que les grandes entreprises capitalistes sont gérées autant par des scientifiques que par des commerciaux, des gens issus des sciences économiques. Je vous disais donc qu'on ne nous dit pas, il y a un problème avec la façon dont on a mis en place la société industrielle à partir du milieu du 19e siècle. On ne dit pas ça, on a une machine qui marche bien et vous êtes là pour la faire marcher encore mieux et de mettre le niveau de régime le plus haut possible. C'est la raison pour laquelle des économistes comme Roegen, mais il n'y en a pas tant que ça, en fait, c'est Roegen et à côté le reste. Eh bien, des économistes comme Roegen ne sont absolument pas compatibles avec, si on veut être un peu schématique, avec le formatage de la pensée économique des gens qui sont dans les écoles du pouvoir économique. C'était. Une forme d'explication relative au fait que Roegen ne soit pas connu, puisque donc nos deux amis ne connaissaient pas Roegen, et toi tu connais depuis.
Non, non plus. Hein.
C'est
toi qui me l'as fait découvrir.
Voilà. Il y a une confusion très importante, je dirais dans l'esprit commun, parce que ils ont eu un cliché rapide, décroissance, c'est celui qui va vivre un petit peu différemment, qui va moins consommer, etc. etc. Quid au niveau du processus économique global, effectivement, il y a un step de réflexion qui n'est pas forcément franchi par tout le monde. Ok. Donc, on n'étudie pas, c'est pas un cours d'économie orthodoxe, c'est un cours d'économie hétéroclite, mais ça existe. Voilà. Et comme il n'y a pas d'autre endroit où on va pouvoir étudier les thèses de Roegen, en tout cas les thèses de la bioéconomie, ben on le fait ici, parce qu'il n'y a pas d'autre endroit pour le faire. Alors, on va commencer par. Je vais vous lire un premier passage. Ben c'est l'intro. Et puis, on verra qu'au bout de 4 ou 5 lignes, on peut s'arrêter et puis commencer à en parler. Alors, Roegen commence son chapitre 1, la loi de l'entropie et le problème économique. Il y a dans l'histoire de la pensée économique un événement bien curieux. Des années après que le dogme mécaniste eut perdu sa suprématie en physique et son emprise dans le monde philosophique, en physique et dans le monde philosophique, les fondateurs de l'école néoclassique se sont mis à ériger une science économique sur le modèle mécanique pour en faire, selon l'expression de Jevons, la mécanique de l'utilité de l'intérêt individuel. Eh bien, que la science économique ait beaucoup avancé depuis lors, rien de ce qui est intervenu n'a fait dévier la pensée économique de l'épistémologie mécanique qui était déjà celle des ancêtres de la science économique orthodoxe, preuve en soi, et elle est éclatante, la représentation dans les manuels courants du processus économique par un diagramme circulaire enfermant le mouvement de va-et-vient entre la production et la consommation dans un système complètement clos. Bon, est-ce que c'est vraiment un jargon impossible à comprendre ou parce que en fait il y a tout là-dedans hein, déjà. C'est pour ça que c'est intéressant. Non mais bon.
C'est la mécanique dans quel sens
non. Voilà. Alors voilà. On va commencer sur le dogme mécaniste. Hein.
Ouais.
Bon, il dit il y a dans l'histoire de la pensée économique un événement mécurieux des années après que le dogme mécaniste eut perdu sa suprématie en physique et en philosophie. Alors, en physique et en philosophie, alors il y a justement un rapprochement de la physique et de la philosophie au moment de Descartes, et c'est là que le dogme mécaniste apparaît, avec Descartes. Avant, on est encore sur une pensée, je dirais, aristotélicienne, Aristote, c'est-à-dire que l'homme est compris dans un tout, c'est englobé dans un tout, tout est dans tout, voilà. Et Descartes arrive, et aussi bien sur le plan philosophique que sur le plan scientifique, il dit non, tout ça c'est un mécanisme. Donc on a la rigueur cartésienne, hein, un et un égale deux s'applique aussi bien au raisonnement philosophique qu'au raisonnement physique. Alors c'est également l'époque de l'éclosion des siècles des Lumières, des premières inventions, on n'est pas loin de la loi de Clausius, hein, de Salicarno, tout ça va arriver, et ça ne peut arriver que parce que, en tout cas, il y a une chronologie qui est quand même assez claire, parce qu'il y a eu Descartes et que le dogme mécaniste est apparu, le dogme mécaniste s'est imposé, et dans le domaine économique on va voir se développer une réflexion, une science économique qui est mécaniste, c'est-à-dire matérialiste, c'est-à-dire qui ne considère que le mouvement en ce sens où on a, si vous voulez, on a une machine. Et puis on y introduit de la matière, on y met du travail humain, et puis à la sortie, il y a quelque chose. Et voilà, l'économie c'est ça. L'économie c'est quelque chose qui va pouvoir s'étudier et qui va pouvoir s'illustrer avec une équation, finalement. Mmh. L'économie, la science économique, c'est de la science exacte, c'est une science dure. Et le dogme mécaniste, c'est ça. Bon. Roentgen, en introduisant la thermodynamique dans l'économie, bat en brèche le dogme mécaniste, parce que la thermodynamique, c'est une notion, notamment l'entropie, c'est une notion alors, anthropomorphique, c'est-à-dire qu'elle part d'une constatation scientifique, mais elle lui donne une illustration humaine. Hein. C'est un peu comme le principe, alors cette fois anthropique, mais pas E-T-R-O-P-I-Q-E, mais A-N-T-H, anthropique. C'est-à-dire que les lois.
C'est français quand même.
Oui, non, mais les lois de la physique existent parce que l'homme est là pour les constater. S'il n'y a pas l'homme, on ne sait pas si les lois existeraient. Bon, donc on est vraiment. On n'est plus du tout dans le cartésianisme.
Mais le phénomène existerait quand même. Le phénomène physique.
C'est la question qu'on se pose. Justement, c'est la question que pose le principe anthropique. Ouais. Il dit les lois physiques n'existent que parce qu'il nous est donné de les observer. Mais on ne sait pas si l'homme n'était pas là. Qu'est-ce qui existerait ? C'est le principe. Donc vous voyez bien que on n'est plus du tout dans le cartésianisme. Et c'est ça, parce que l'entropie introduit un élément qui n'est pas cartésien dans la physique et par voie de conséquence dans l'économie. Donc c'est ça l'apport de Roggen. L'apport de Roggen, c'est pas l'invention de la thermodynamique. L'invention de la thermodynamique, c'est Carnot, Clausius, etc. C'est l'originalité de Roggen, c'est qu'il a dit et il a compris que le processus économique n'était pas un processus complètement qui pouvait être réduit à une équation mécaniste, mais que dans le processus économique, il y avait l'homme, il y avait la biologie et il y avait le principe de l'entropie. Voilà. Donc, et cette révolution, on peut bien le dire, de la pensée économique, qui existe, mais qui est occultée, évidemment, par l'idéologie dominante, elle correspond un petit peu à un retour, non pas aux sources, mais un retour à l'avant Descartes, c'est-à-dire à la pensée holistique, hein, H-O-L, la pensée d'Aristote, justement, ce qui explique qu'Aristote revient énormément, je dirais, à la mode chez les philosophes, et par voie de conséquence aussi, cette vision de l'économie par Roggen est une vision qui revient un peu à la globalité telle que la concevait Aristote. Donc, emprise dans le monde philosophique, emprise dans le monde économique, et il dit que quoi qu'il puisse advenir, c'est-à-dire qu'on a découvert entre-temps l'entropie, et bien malgré ça, ça n'a pas fait scier du tout les théoriciens de la science économique, productivistes, croissancistes, etc., et que le schisme, le dilemme, il est là.
Ok, c'est bon. Il définit plus tard dans l'ouvrage, de manière rigoureuse, ce que c'est que l'entropie.
Oui. Pour l'instant, on n'en est pas à dire ce que c'est que l'entropie. Hein. Pour l'instant, ce qu'il me paraît intéressant d'extraire de ce paragraphe là, c'est que la vision Roggen de l'économie, c'est une vision qui brise l'axiome mécaniste. L'économie, c'est pas, comme on nous le dit à l'ESSEC, à HEC, à Polytechnique et à Centrale, simplement une équation de machine dans laquelle on fait, encore une fois, je recommence, on fait rentrer, il y a des intrants, on y met de la force de travail et ça sort quelque chose. Entrée, sortie. Et on recommence. C'est un vase clos, c'est-à-dire que à chaque fois que je vais rentrer du carburant, que j'ai du comburant et que j'ai un activateur, ma combustion économique, et il n'y a pas de problème. J'ai un système qui fonctionne, je n'ai qu'un seul objectif, finalement, j'ai qu'un seul boulot, c'est d'aller chercher de la matière pour faire tourner le système. Et c'est tout. Il n'y a pas d'autres paramètres. Et Roggen dit, attendez, il y a un autre paramètre, c'est que la matière, c'est de la vie, c'est la nature, la matière, c'est pas inerte, c'est pas un truc cartésien, c'est quelque chose qui interagit aussi avec l'homme et avec la Terre et avec le cosmos, etc., 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 et que votre machine, c'est bien plus qu'une machine, c'est quelque chose qui bouscule tout l'univers. Et ça, c'est quelque chose que personne n'avait dit avant lui. Ah, je pense qu'il faut d'abord, bien voir quelle est l'approche Roggen, ce que ça implique, qu'est-ce que ça donne quand on rentre la thermodynamique et l'entropie dans l'analyse du processus économique. Et après, ça peut être intéressant de voir si, dans les écrits de Marx, mais les écrits de Marx, pas ce qu'en ont dit les marxistes, puisque n'oublions pas que Marx, je ne suis pas marxiste.
Tout à fait, pardon.
Et s'il y a effectivement chez Marx une vision, alors là, pour le coup, il serait visionnaire parce que sortir ça à cette époque, c'était quelque chose quand même qui n'était pas du tout évident. Mais il y a un livre de John Foster Bellamy qui s'appelle Marx écologiste, et John Foster Bellamy s'est amusé à compiler toute l'œuvre de Marx et de sortir tout ce qui était finalement très actuel. Et moi, je me souviens, avant d'ailleurs d'avoir lu le bouquin de Bellamy, d'avoir été frappé par un passage où Marx dit: avec l'urbanisation, avec la croissance des grandes villes, qui correspond à l'industrialisation, etc., etc., on a récupéré toute la matière fécale, on va faire des égouts, et toute cette matière fécale ne retournera plus à la Terre. Et là, il y a un problème. Il y a un problème parce que l'équilibre écologique, c'est que tous les déchets végétaux et organiques qui sont utilisés par l'homme retournent à la Terre. Et donc là, il y a une déperdition de matière organique qui va très certainement poser problème dans l'évolution de la société. Il le sort ça, et ça, c'est incroyablement visionnaire. Alors, Roegen continue, et il nous dit, toujours en parlant des mécanistes, économistes mécanistes, les économistes mécanistes considèrent que tout ce que la nature offre à l'homme n'est que don gratuit. Bon, ça, c'est une des bases de l'application du dogme mécaniste à l'économie. C'est gratuit. On prend, c'est gratuit. On a peut-être notion que plus on en prend, moins il y en a. Pas forcément au début. La notion de la finitude des ressources naturelles, c'est une notion qui est relativement récente, hein, mais qui a quand même quelques dizaines d'années. Mais par contre, que c'est un don gratuit, alors gratuit. Oui, oui.
Oui, gratuit, il y a quand même des frais pour sortir de la matière de la terre quand même. Enfin, pour l'extraire, il n'y a rien de gratuit, quoi, vous dire. Quelque soit.
Oui, mais c'est un investissement.
Non, mais attendez, c'est très intéressant. Alors, gratuit.
Ouais, non, pour moi, c'est forcément, c'est gratuit, parce qu'au sens où on l'achète à personne, mais on s'octroie les moyens de...
Oui, pour l'extraire, il faut du travail, il faut des machines, donc ça fait un coût.
On paye ça à personne, ça n'appartient à personne, on se donne juste les moyens d'aller l'extraire, mais en fait, finalement, c'est juste on avance les frais pour les récupérer ensuite. Quoi. C'est pas comme si on loue un appartement à quelqu'un et qu'on...
Mais c'est-à-dire que la terre ne va pas te faire payer, quoi.
Ouais.
Mais il y a quand même
un... Peut-être que si, quand même. Hein,
oui.
Elle va nous faire payer un jour.
Non, mais... Voilà. Donc, gratuit, qu'est-ce que ça vous... Tout ce que la nature offre à l'homme, ou tout ce que l'homme va chercher dans la nature, c'est gratuit.
Oui, la nature est mise gratuitement à disposition, au sens où on ne paye pas quelqu'un qui s'appelle la nature pour prendre ça, simplement de payer ce qu'on doit mettre en œuvre pour que ce soit... utile à la société, donc ça va être payer des machines et des êtres humains, mais c'est quelque part en dehors de la nature.
C'est une vision totalement anthropocentrée, puisque finalement ça revient sur les théories religieuses qui disent que la nature a été créée pour l'homme, les animaux ont été créés pour que l'homme en profite, et ça revient un petit peu aux théories religieuses, quoi. Je pense qu'à l'époque c'était encore d'actualité.
Alors moi je pense qu'il y a trois niveaux dans cette acception de gratuit. Il y a le premier niveau, effectivement, c'est gratuit parce que la nature, elle est à l'homme. Elle n'est pas aux animaux, elle n'est pas aux insectes, elle n'est pas aux végétaux. La nature, Dame Nature a créé la terre et les ressources naturelles et le système végétal pour le seul profit de l'homme. Donc ça, c'est une première vision de c'est gratuit. Alors c'est une vision que les élateurs de la deep ecology contestent fermement, puisque eux prennent le contre-pied inverse, disent au contraire, l'homme n'a pas le droit de toucher quoi que ce soit la nature. Ouais, bon, là, on est dans les deux...
Des extrêmes.
Les deux extrêmes. Bon. Il y a donc cette notion-là, gratuit. Il y a une autre notion, c'est celle que tu dis, C'est-à-dire, c'est gratuit parce que je ne paye que les frais d'extraction, les frais de transport, et puis, éventuellement...
La pub.
La quoi ?
La publicité, le marketing.
Oui, enfin, pour utiliser... Si on s'en tient au trajet qui va amener la ressource là où elle est, à l'entrée de la machine. Bon, on a les frais d'extraction, on a le coût de transport, et puis on a la redevance de celui qui arbitrairement s'est installé au-dessus et qui a dit c'est à moi. Bon. Mais la ressource elle-même, elle est considérée par ces gens-là, par les mécanistes et donc par les économistes actuels, comme étant gratuite au sens intrinsèque, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de valeur intrinsèque. Alors ce mot intrinsèque est très important parce qu'il va induire ensuite toute la notion d'économie de flux VS versus économie de stock, comptabilité de flux VS comptabilité de stock. C'est la notion de valeur intrinsèque. C'est-à-dire qu'une ressource naturelle, comment est-ce qu'on l'évalue ? Ben aujourd'hui, on met valeur naturelle, c'est coût d'achat. C, petit a, coût d'achat égale ce que je viens de dire, coût d'extraction, plus coût de transport, plus royalty, celui qui prétend que c'est à lui. Eh bien, Roegen y rajoute, Roegen et d'autres dont je fais partie, on rajoute un C, indice I, c'est intrinsèque. Ça a une valeur. Laquelle ? Bon, c'est un débat. Mais ça a une valeur. Donc, deuxième problème sur le mot gratuit, celui-là. Ensuite, troisième acception de gratuit, c'est gratuit. Gratuit, ça veut dire je le prends, ça y est, moi-même je le paye un petit peu plus parce que finalement c'est pas gratuit. Mais après, tout va bien. Non. J'occasionne du dégât et ça va au-delà du fait d'avoir pris un CA plus CI quelque part et de l'avoir introduit dans la machine, mais ce n'est pas gratuit parce que ça fait monter l'entropie. Je suis parti de la basse entropie, et bon, là, on anticipe un peu, mais déjà, on introduit le concept d'entropie simplement en essayant de voir qu'est-ce que c'est que cette histoire que les ressources sont gratuites. Donc, si on... Un processus qui déclenche un dégât, on va appeler externalité négative, bon ben, de ce point de vue-là, aussi l'adjectif gratuit s'applique, enfin le contre-adjectif pas gratuit s'applique. Donc, on voit bien que cette vision mécaniste de l'économie, elle implique qu'il faut absolument qu'on soit d'accord sur ces trois gratuités qui sont absolument pas évidentes et qui même sont relativement fausses. Donc, toute l'histoire économique de l'humanité prouve sans contredit que la nature, elle aussi, joue un rôle important dans le processus économique. Voilà la grande phrase qui génère en fait tout le reste. Et que... Ben, à l'ESSEC, on ne vous le dit pas du tout. Hein. Quand vous étudiez Ricardo, etc., la théorie de la valeur, même Marx, on ne vous dit pas du tout que la nature joue un rôle important dans le processus économique. Qu'est-ce que c'est que ça, le processus économique ? C'est une machine qui tourne, on lui met du carburant, là ça tourne, ça sort un résultat. Il faut que la machine... On va faire des innovations technologiques pour que, en mettant toujours moins, ça sorte toujours plus. Bon, là, on va... revient sur une notion qu'on aura l'occasion de bien creuser, c'est le TRE, le taux de retour énergétique, ou EROI, Energy Return on Energy Invested. Mais la nature, on n'en parle pas du tout. Donc voilà pour déjà, sans avoir parlé de thermodynamique et d'entropie, comment on peut voir le processus économique d'une autre façon que celui qu'on nous le montre tout le temps. Est-ce que, par hasard, la nature ne jouerait-elle pas un rôle à l'intérieur du processus économique. D'où le terme de bioéconomie, qui va être instauré par Hoyen lui-même. Alors, j'ai souligné un petit peu plus loin, l'homme ne produit ni ne consomme de la matière énergie. Il se limite à absorber de la matière énergie pour la rejeter continuellement. C'est ce que la pure physique nous enseigne. Toutefois, la science économique, disons-le haut et fort, n'est pas de la pure physique, ni même de la physique tout court. Nous pouvons espérer que même les partisans les plus acharnés de la thèse selon laquelle les ressources naturelles n'ont rien à voir avec la valeur finiront par admettre qu'il y a une différence entre ce qui est absorbé dans le processus économique et ce qui en sort. Et cette différence, bien sûr, ne peut être que qualitative. Est-ce que ça vous inspire ou pas ?
Pourquoi elle peut être qualitative ? Pourquoi on ne pourrait pas la quantifier ?
Est-ce que tu ne perds pas de matière ?
Non, qualitative, elle est, on peut la quantifier, mais elle est qualitative. Alors, il faut prendre le début de ce qu'il dit. L'homme ne consomme pas de la matière énergie.
C'est la consommation d'énergie.
Il se limite à absorber la matière énergie pour la rejeter continuellement. Bon. C'est à la fois l'antinomie et la complémentarité des deux premiers principes de la thermodynamique. Le premier principe qui dit que l'énergie se conserve. Et le deuxième principe qui dit que l'énergie se dégrade. Donc, quand on dit que l'homme dans le processus... Oui, oui, oui. Voilà. On met là qu'il faut prendre son temps. Il faut prendre son temps parce qu'on est vraiment au cœur de la chose. Oui. On ne consomme pas de la matière. Alors, matière-énergie, vous avez compris, matière-énergie, hein, parce que le processus économique de la société industrielle, c'est la mise en œuvre de matière et d'énergie.
Oui.
L'un ne va pas sans l'autre. Ou plutôt, si on n'a que de la matière et pas d'énergie, qu'est-ce qui se passe ? Si on a de la matière et qu'on n'a pas d'énergie, qu'est-ce qui se passe ? Par exemple, si j'ai du cuivre...
On ne peut pas la transformer ?
Si, à la force du poignet. Si, voilà.
C'est de l'énergie.
Ah mais attendez, l'homme, c'est de l'énergie aussi.
Non. Oui.
Ah ben non.
Alors, attendez. Ouais. Si...
Pas oublier l'homme, maintenant.
Alors, hein, on va d'abord bien mentaliser et bien étudier ce que c'est que la mise en œuvre conjointe de l'énergie et de la matière. Avant la révolution néolithique, alors, ça a duré quand même 200 000 ans, puisque si on fait remonter l'Homo sapiens, alors on ne parle pas de Lucie ou de Néandertal et de Cro-Magnon, mais on va partir simplement d'Homo sapiens, c'est moins 200 000 ans, et ça dure jusqu'à moins 10 000 ans, hein, on va dire 190 000 ans. Je m'arrête à la révolution néolithique là. Bon, donc, de moins 200 000 à moins 10 000, on a ce qu'on appelle, bon, on appelait ça l'âge d'or, hein, chasseur, pêcheur, cueilleur. L'homme vit très bien, c'était durable, hein, 190 000 ans, je ne sais pas si on fera 190 000 ans de société industrielle. Hein. Voilà un système durable.
Hein. Oui,
c'est prouvé, ça a duré 190 000 ans. Bon. Avec, attention, on parle d'Homo sapiens, c'est-à-dire nous. Homo sapiens, c'est nous. Avant, c'était des hominidés, des paranthropiques, des canthropes, néandertaliens.
Bon, pour savoir que du diable, il y avait quand même beaucoup moins de personnes qu'aujourd'hui.
Nous sommes d'accord. Voilà, attendez.
Un peu.
Oui. Alors, c'est durable. Bon, il y a le comburant.
Voilà.
Mais le système, alors, bien entendu, on n'a pas qu'un paramètre dans la combustion. Hein, il y en a au moins trois. Et que pour que ce système chasseur-pêcheur-cueilleur soit viable, il fallait sans doute qu'il y ait, disons, un taux d'occupation qui soit ce qu'il était à l'époque. Mais en tout cas, le processus vital, lui, il était durable. Peut-être même que le nombre d'humains était naturellement équilibré par rapport à ce que la nature peut lui donner. Bon. Mais
c'est une condition pour que ce soit durable.
Alors, ça c'est bon, c'est un débat qu'on va se mettre aussi derrière l'oreille, mais on va rester sur notre raisonnement là. Le raisonnement, puisqu'on parle de l'énergie matière. Hein. On parle de l'énergie matière. Voilà. Alors, l'énergie matière, on a chasseur-pêcheur-cueilleur, là on ne parle pas d'énergie matière. Puisque la vie, c'est cueillir ce que la nature donne, chasser selon les règles de la chaîne alimentaire avec les outils qu'on a su fabriquer à l'époque, puis pêcher, voilà. Bon. Donc il n'y a pas d'énergie matière. Le néolithique, qu'est-ce que c'est? Ça commence comment le néolithique? Alors, il y a plusieurs facteurs aussi, il n'y a jamais qu'un seul facteur. Hein. Il y a une sédentarisation, alors que les chasseurs, pêcheurs, cueilleurs étaient des nomades. Une sédentarisation par petits groupes, par petites collectivités, et le début de l'agriculture, c'est le début de la domestication de la nature. C'est-à-dire qu'on ne se contente plus de prendre le fruit qui est dans l'arbre, mais on plante l'arbre. Et on en plante plusieurs en rangée pour que ça puisse nourrir tout le village. Et puis, on découvre le cuivre. Il y a un gars qui gratte, qui dit « Oh, c'est joli, on découvre. » Et ça commence comme ça. Ça commence comme ça. On découvre donc de la matière. On découvre de la matière. La matière finie, les minerais. Mais on n'a pas d'énergie. On a simplement de l'énergie manuelle, physique. On est dans une situation avec de la matière et pas d'énergie. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on fait, en tout cas, si on compare avec aujourd'hui la société industrielle, on a tout petit artisanat qui commence. Et donc, si on a de la matière et qu'on n'a pas d'énergie, on a un modèle façon néolithique. Hein, avec les premières petites industries du Grand Précigny, où il y avait des. C'était les premières usines, près du Grand Précigny, là, près de Châteauroux, où on a répertorié une usine de gens comme nous, hein, puisque bon, c'est les mêmes, encore une fois, qui taillent des pierres, hein, pour faire des couteaux, des haches. C'est le début de l'âge de pierre. Donc le façonnage artisanal, on démarre l'agriculture, on démarre l'artisanat, et ça c'est parce qu'on a trouvé des minerais, mais on n'a toujours pas d'énergie. Voilà. Donc si on n'avait pas d'énergie, on aurait le néolithique qui continuerait. Bon. Et ça aussi, c'est assez durable, parce que à la vitesse à laquelle les gens du néolithique prélevaient la dot naturelle, ça pouvait durer très très longtemps. Inversement, imaginons qu'on ait de l'énergie et pas de matière. Bon, ça, par contre, c'est une vision de l'esprit. Parce que, à ma connaissance, on n'a pas de cas de figure, on est de l'énergie et pas de matière. L'énergie et pas de matière, en fait, l'énergie et pas de matière, c'était chasseurs, pêcheurs, cueilleurs. C'est-à-dire qu'ils avaient le rayonnement solaire.
Il ne faut pas dire ça. Les animaux, c'est aussi de la matière.
Alors, c'est...
Donc, on va dire.
Non, on parle de la matière inerte. Hein. On étudie.
Moi, je suis matérialiste.
Ouais. Oui, non, mais on étudie. Ouais. Attendez, c'est important de rectifier ça.
Je comprends aussi son point de vue, parce que d'un point de vue physique, c'est vrai que là, on utilise des termes qui sont vulgarisés.
Alors, matière, on va dire minerai.
Ouais, d'accord.
Le processus industriel de notre société industrielle, c'est la mise en œuvre du couple énergie-matière. Donc, si on a de l'énergie et pas de matière, c'était les chasseurs-pêcheurs-cueilleurs, ils avaient de l'énergie, ils avaient de l'énergie solaire, hein, c'est l'énergie par excellence, et pas de matière.
Il faut que vous précisiez énergie, matière première. Parce que matière, ça a un sens beaucoup plus général.
Oui, mais dans l'acception de notre raisonnement, et en tout cas sur les études économiques et thermodynamiques, quand on va parler de matière, on va parler de matière inerte, on va parler de minerais et de biomasse, mais pas du monde vivant. Hmm. Bon. Lorsqu'on regarde comment se passe la fabrication industrielle, on ne fabrique pas les choses avec des êtres vivants. On fabrique avec des êtres
vivants. Il y en a un qui a essayé, il s'appelle oui. Adolphe.
Voilà. Bon. Donc, le processus, c'est énergie-matière. Ça a commencé avec la première coulée au coq. Alors, je ne sais plus la date. Ça veut dire...
Voilà, pourquoi la coulée au... Enfin, avant...
Quand ils faisaient transformer, quand ils faisaient chauffer...
Ben oui.
Alors...
Le forgeron...
Oui, mais on est dans l'artisanat.
Oui. Hein,
on est dans une métallurgie artisanale. C'est-à-dire qu'on va travailler le métal directement, soit en le martelant avec un autre outil, soit effectivement en le ramollissant, en le mettant dans de la braise. La révolution industrielle, d'un point de vue des dispositifs utilisés, c'est la coulée au coq, c'est-à-dire la fabrication de l'acier. Hein? Donc, de l'oxyde de fer d'un côté, du coq, et les aciéries en forme d'acier. Tout part de là. Et ça part effectivement du minerai de fer, mais ça, le minerai de fer, ça fait un moment qu'on l'avait trouvé. Mais on n'avait pas l'énergie qui permettait de le transformer pour en faire de l'acier. Et ça a commencé peu après la bataille de Waterloo, en Angleterre, avec le charbon de terre, qui était les petites manufactures, petites aciéries débutantes, qui ont commencé à s'installer le long des rivières. Et d'ailleurs, ça a correspondu à un renversement de suprématie mondiale, puisque la France, qui jusqu'à Napoléon était première puissance, a été supplantée par l'Angleterre, et l'Angleterre est devenue première puissance mondiale parce qu'elle a fabriqué de l'acier. Donc c'est en Angleterre que la révolution industrielle a démarré.
C'est pas avant 1815, alors, vous dites
C'est pas avant. Bon, il y a eu. Alors, je sais, j'ai plus la date de la première coulée au coq, hein. Mais on dit 1815 parce que 1815 c'est la bataille de Waterloo.
Oui.
Bon, c'est la déconfiture de l'Empire français. Et puis c'est d'un point de vue militaire la prise en main de l'Europe par la coalition dirigée par l'Angleterre. Mais
c'est une coalition maritime surtout, c'est pour ça que la prise en main a été faite par les Anglais.
Non mais, alors, d'un point de vue de la stratégie militaire, et c'est pas notre objet, est-ce que Waterloo n'aurait pas eu lieu si Blücher était arrivé au lieu de Grouchy, ou plutôt de l'inverse? Bon, ça c'est autre chose, mais toujours est-il que dans les années, les décennies qui ont suivi dans la première partie du 19e siècle, hein, jusqu'à c'est l'Angleterre qui a développé, alors, les autres pays aussi, mais qui a été la tête de proue, c'est en Angleterre qu'a démarré la révolution industrielle pour ce qui concerne la métallurgie, c'est-à-dire justement, la mise en œuvre de ce fameux couple énergie-matière. Énergie pris au sens, hein, on va dire, des métaux, des minerais, voilà. Et matière plutôt, et énergie, évidemment, le charbon qui ensuite sera supplanté par le pétrole. Donc, on en revient à ce couple fondamental et fondateur de la société industrielle, qui est la mise en œuvre par la métallurgie des minerais et de l'énergie des hydrocarbures. Et donc, on revient à notre phrase. Huygens nous dit l'homme ne produit ni ne consomme de la matière énergie, l'homme ne produit pas de matière énergie et il ne consomme pas de matière énergie. Il se limite à l'absorber, la matière énergie, pour la rejeter continuellement. Alors, l'homme ne produit pas de matière énergie. Bon, ça, on le comprend assez facilement. Oui. L'homme ne produit pas d'énergie.
Il la transforme, tout
simplement. Voilà. Et l'homme n'arrive pas à fabriquer de la matière. Il essaye. Hein. Il essaye de fabriquer de la matière. Elle n'arrive pas à fabriquer.
L'alchimie n'a pas apporté ses fruits.
Oui, non, mais l'accélérateur de particules, le boson de Higgs, bon, ils sont dans cette recherche. Hein. Bon, bah. Donc ça, on le voit bien, mais le consomme. Alors, les gens vont vous dire, ben oui, le processus industriel, qu'est-ce que c'est? Si vous faites un micro-trottoir, le processus industriel, qu'est-ce que c'est? Mais c'est consommer de la matière énergie. Non, on ne la consomme pas. Consommer, ça veut dire, je consomme, il n'y a plus rien. Non. Première loi de la thermodynamique, l'énergie se conserve, la matière se conserve, tout se conserve, Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée.
Presque.
La deuxième loi de la thermodynamique, pour ça qu'on a pu dire qu'elles étaient contradictoires, enfin, par une lecture première et superficielle, mais en fait elles ne le sont pas, elles sont complètement complémentaires, elle introduit le concept d'entropie, c'est-à-dire que la matière, enfin, l'énergie, se dégrade. Le processus industriel consomme, enfin, introduit, il utilise, il consomme pas, consommer, c'est-à-dire, voilà, il utilise de la matière énergie, il met en marche son processus, il en sort un produit fini et une dégradation de l'énergie et aussi de la matière. Parce que la deuxième loi de la thermodynamique, qui introduit l'entropie, bon, dont on va parler, mais c'est plus simple de commencer par dire que l'énergie se dégrade, elle ne parle pas de la matière. Les minerais. C'est la raison pour laquelle Roentgen va, on le verra un petit peu plus tard, introduire une quatrième loi de la thermodynamique qui dit que la matière aussi se dégrade, se dissipe. Alors, donc, revenons à notre énergie. Elle arrive, pour l'instant, on ne va plus parler du minerai, on va parler simplement d'énergie. Elle arrive dans le processus économique. Elle a une certaine quantité. Et elle sort toujours avec la même quantité, première loi de la thermodynamique, mais au niveau qualitatif, elle a changé. C'est-à-dire qu'elle s'est dissipée, elle reste utilisable dans le produit, mais il y a toute une partie de cette énergie qui se dissipe et qu'on ne peut plus, que l'homme ne peut plus récupérer. C'est la différence entre l'énergie libre et l'énergie liée. L'énergie liée, c'est qu'elle est complètement dissipée dans la nature et on ne peut pas la récupérer. On ne peut pas la récupérer parce que l'homme ne peut utiliser que l'énergie ou que n'importe quel élément, il ne peut l'utiliser que quand il est en état de basse entropie, c'est-à-dire quand il est à l'état naturel tel que Dame Nature l'a fabriqué et que l'homme n'y a pas encore mis son nez, et que par le processus économique, il dégrade, il a un résultat tangible, c'est un produit manufacturé, mais il a une dégradation de l'autre partie de l'énergie. Donc cette énergie s'est transformée pour, on va dire pour moitié, hein. Bon, c'est pour simplifier, pour moitié en produit manufacturé et pour moitié en énergie dissipée, en énergie liée. Et expliqué en termes d'entropie, le processus industriel humain, donc l'intervention humaine, a transformé une matière naturelle qui était en basse entropie, l'a transformée en état de haute entropie.
Bon, sachant qu'on peut aussi faire l'inverse.
Comment ?
On peut aussi faire l'inverse.
En principe, enfin, la règle de base, c'est de dire que.
On parle de système fermé, hein. Je suis d'accord avec
vous. Oui, on parle de système fermé.
Voilà, donc c'est juste ça.
Oui, mais.
Qu'il faut rajouter.
Roentgen cite l'exemple du cuivre, la plaque de cuivre, qui a une entropie plus basse que le minerai. C'est-à-dire que lorsqu'on travaille, on prend le minerai de cuivre, qu'on travaille par le processus économique, qu'on est une plaque de cuivre, et là, une entropie plus basse. Mais il a fallu apporter de l'énergie qui, elle, a généré une autre entropie plus haute. Que si il faut faire le bilan complet. C'est-à-dire que la réversibilité, si elle était, disons, si elle était naturellement, si elle s'opérait de façon naturelle, il y aurait une réversibilité. Pardon, lorsque je dégrade, j'attends une semaine et paf, ça se remet. Là, oui, on dirait qu'il y a une réversibilité. Mais si on intervient pour faire pour faire revenir, pour prendre un état dégradé, pour le ramener dans un état stable de basse entropie, et qu'on utilise donc un processus qui va dissiper énormément d'énergie, il s'agit de savoir si le bilan, parce que c'est toujours le bilan final qui compte. Le processus industriel, il peut à un certain moment faire revenir les choses en arrière, mais en développant deux fois plus de puissance. Donc,
en fait, c'est très clairement illustré ce dont on parle tout à l'heure dans la deuxième loi de la thermodynamique. C'est souvent découpé en un terme global, qui est delta S, la variation d'entropie globale, qui est égale à la variation interne au système plus qui elle peut être positive ou négative. C'est pour ça que tu parles. Plus un terme S créé, entropie créée, qui lui est strictement positif systématiquement. Et l'ensemble ne peut pas être négatif.
C'est ce qu'on parlait la dernière fois avec la vidéo sur Wagen qui disait que l'entropie ne peut pas être négative. Donc c'est cette partie-là.
Elle ne peut pas être négative, bien qu'il y ait des anti-Wagen qui aient développé le concept de négentropie, qui faisait hurler Wagen. Bon, mais alors là, on entre vraiment on est passé de l'économie. Alors ça illustre un petit peu, on est passé de l'économie à la physique et à la chimie, puisque ces deux éminents enseignants en physique et chimie nous apportent un éclairage superbement instructif. La seule énergie qu'on reçoit, c'est effectivement l'énergie solaire. Il n'y a pas d'autre. Le pétrole, il y est. Bon. Le gaz, il y est. Et puis, c'est en quantité finie. L'énergie solaire, elle arrive et elle n'est pas limitée. Le problème, c'est de savoir quel taux d'intensité elle arrive. Bon. Et si on considère que on ne sait pas utiliser l'énergie solaire de façon significative, de là, effectivement, on peut dire que la Terre est un système clos, dans la mesure où elle ne reçoit que de l'énergie solaire et qu'on ne sait pas l'utiliser de façon significative. Mais Rogan a parlé de ça, il a dit jusqu'à présent il y a eu deux sauts technologiques importants, il n'y en a pas eu 4, ni 5, ni 6 dans l'histoire humaine. Il parle de Prométhée 1 et Prométhée 2. Prométhée 1, c'est la découverte du feu, la maîtrise du feu, plutôt, et Prométhée 2, c'est la maîtrise de... c'est la machine à vapeur. Bon. Et il dit tous les technologies, toutes les inventions qu'il y a eu après la machine à vapeur, ce ne sont que des améliorations technologiques. Toute notre civilisation industrielle, tout notre système de production, c'est le feu et la machine à vapeur. Améliorer. On sortirait de notre... On aurait une ouverture sur autre chose si on passait à Prométhée 3. Et Prométhée 3, c'est la maîtrise de l'énergie solaire. Oui, il ouvre ça.
On peut rajouter un anachronisme du coup dans sa réflexion avec l'arrivée du pétrole et d'Internet aussi. Il y a eu d'autres Prométhées, quoi.
Ah mais
pétrole, ça reste une machine à vapeur.
Non, ça reste une machine à vapeur. Okay. On fait chauffer de l'eau, source chaude, source froide, condenseur, et puis voilà, il en sort, ensuite on met une dynamo derrière, peu importe.
Oui, c'est toujours.
Non, la Prométhée 3, c'est utiliser l'énergie solaire, mais attention, pas utiliser l'énergie solaire. Aujourd'hui, on a deux façons d'utiliser, c'est le thermique ou le photovoltaïque. Thermique, grosso modo, on met un miroir, puis on fait bouillir. Et puis le photovoltaïque, bon, c'est des panneaux solaires et l'électricité se fait dans les bon, cadmium, et, etc. Le saut prométhéen qu'imagine Roentgen, c'est directement l'énergie solaire, que l'énergie solaire produise une rotation d'effet mécanique. C'est-à-dire, je mets sur ma voiture un capteur et ça fait marcher la voiture. On ne passe pas par de l'eau qui boue et qui produit de l'électricité.
C'est déjà le cas avec le photovoltaïque, c'est ça ?
Mais c'est moi, il y a un interdit.
Ça ne débouche pas sur un mécanisme. Ça ne se traduit pas en énergie mécanique.
Sinon, on utilise les photons qui génèrent des électrons qui eux-mêmes vont générer l'énergie mécanique derrière, en se retransformant.
Oui, on passe par un intermédiaire.
Des électrons.
Oui, on passe par un intermédiaire.
Je pense que le problème des trois, c'est autre chose. Pour moi, c'est le problème que j'ai posé quand je suis allé visiter les instituts de recherche à Grenoble. J'aurais dit, quand est-ce que vous allez transformer directement la matière en électricité, quoi, sans passer par le TNT2.
Hein. Non, mais même l'électricité, il va falloir du cuivre ou d'aluminium pour le transporter. Je reviens sur ce que tu dis. J'ai mon panneau solaire avec le silicium, les photons, machin, ça fait. Bon, je le transforme en électricité. Non, mais là, on passe encore par du produit fini.
Oui, bien hein sûr.
Bon, c'est le premier des trois, c'est j'ai mon rayonnement solaire et ça déclenche un mécanisme.
Ça, c'est intéressant.
Alors ça existe, hein, mais toute petite échelle. Hein. Vous avez jamais vu des machins qui tournent tout seuls en les éclairant? Vous savez, en jouant, alors je ne me souviens plus du phénomène, en jouant sur.
Mais ça tourne pas tout seul.
Ça tourne avec la lumière. Mais avec les photons, parce que les photons, c'est
voilà, ça tourne avec les photons. Ça tourne avec les photons. Eh oui, ça tourne avec la matière. Voilà. Voilà, on utilise. Voilà. C'est comme quand on nous. C'est comme quand on nous. Sans aller chercher si loin. Quand on nous parle des énergies renouvelables, on vous dit il y a les éoliennes, hein, et puis les panneaux photovoltaïques, alors c'est du renouvelable. C'est du renouvelable avec des produits finis. Parce que une éolienne, ça tourne avec
une usine à gaz.
Une éolienne, il faut un mât. Il faut un moteur, il faut des pales, il faut des terres rares,
et beaucoup de béton.
Des atonateurs, et puis ensuite il faut du fil pour transporter l'électricité. Même topo. Alors, l'énergie renouvelable avec du renouvelable, c'est autre chose. Ça, c'est ce qu'avaient les Assyriens. Ils avaient dans les plaines de Mésopotamie, dans la plaine des vents de 181 jours, je crois, ils avaient déjà des moulins à vent. Mais c'était des pales en bois, hein, avec des axes en bois, et puis des lanières en cuir. Et puis les Égyptiens, ils faisaient la cuisine à l'énergie solaire, ils faisaient cuire les œufs. Bon, donc là, nos énergies renouvelables mixtes qu'on nous vend, pour que ce soit vraiment renouvelable, il faut que le dispositif de capture ne soit fait qu'avec des matériaux renouvelables, c'est-à-dire du bois, de la biomasse, du chanvre, du cuir, du cuir de bœuf.
C'est photovoltaïque avec du bois.
La baisse des coûts de production des systèmes de production d'énergie renouvelable, mais en fait c'est complètement bullshit puisque c'est produit à 80% par exemple pour les panneaux photovoltaïques en Chine qui tournent énormément en charbon.
Oui.
En fait, si aujourd'hui on arrive au fossile, il n'y a plus de production d'infrastructures renouvelables.
Et même dans l'éventualité où utopiste dans lequel on créerait à partir des ressources fossiles qui nous restent tous les matériaux renouvelables, même dans ce cas-là, ces matériaux renouvelables ont une période de dégradation qui est finie. Du coup, même en imaginant qu'on crée toutes nos ressources renouvelables pour demain avec ce qui nous reste de fossiles, et qu'ensuite on puisse tourner pendant des millénaires, ce serait encore une fois faux, puisque déjà on ne peut pas recycler l'infini, mais même quand un truc se casse, on ne pourra pas le réparer, quoi, tout simplement. Ça a une durée de vie, quoi. Un panneau solaire, ça a une durée de vie, une éolienne, pareil. C'est pas viable, quoi.
Là, on va vite. Hein. Là, on en brûle les étapes. Hein.
Ah, on n'a pas le temps.
Hein. Non, mais le raisonnement.
Le retour.
Oui. Non, mais on a tout notre temps. Là.
Je parlais
Oui. Non, mais alors, bon, parce que là, on essaie de bien saisir hein, cette histoire de dégradation d'énergie, d'entropie basse et haute. Et que le processus économique. Déjà, il me semble que c'est intéressant de retenir l'idée que dire qu'on consomme de la matière, c'est s'exprimer pas comme il faut.
C'est comme les médias parlent. Quoi.
Non, mais c'est pas. C'est pour ça justement qu'on est là. Hein.
Pour parler autrement.
pour déconstruire certaines idées reçues, et puis pour voir exactement le sens des mots. Voilà. Il utilise. La machine économique utilise de la matière énergie, mais elle ne la consomme pas au sens où je consomme mon plat de lentilles, une fois qu'il est consommé, il n'y en a plus. Voilà. Bon.
Presque, oui.
Donc, il y a cette idée qu'il faut, voilà, il faut retenir que Regen nous amène. On ne fait que transformer. Le processus industriel, il transforme. Hein, il ne consomme pas, il transforme. Et il ne transforme pas complètement. On pourrait dire, ah ben, c'est formidable, il transforme, c'est-à-dire qu'on a, on a une quantité Q, et puis on la retrouve, la même quantité Q, mais sous forme de produits, sous forme de
produits finis, enfin,
produits finis, utilisables, de biens de consommation. Non, il y a une partie qui est perdue. Donc voilà. Oui.
Les frottements, etc.
Dissipation. Alors il y a un très bon bouquin qui s'appelle La dégradation de l'énergie de Bernard Brune. Brune, c'est Bruhnes. Le H est tout à l'heure, je ne sais plus. Pendant tout le bouquin de la dégradation de l'énergie, c'est un livre assez technique, mais qui est quand même écrit pour qu'il soit lu par tout le monde. C'est ce qu'on appelle un travail de vulgarisation. Mmh. Et c'est intéressant parce que ce n'est pas que du Regen. Hein, c'est. Il parle de Regen, mais il élargit la notion de dissipation de l'énergie, en fait, à tout ce qui se passe dans notre mode de vie actuel. Alors, l'économiste non orthodoxe que je suis ajouterait que ce qui entre dans le processus économique consiste en ressources naturelles de valeur, et ce qui en est rejeté consiste en déchets sans valeur. Bon, avant d'aller plus loin, ça aussi c'est un apport de Regen, c'est que on connaît la théorie de la valeur. Hein. Alors bon, toujours des économistes mécanistes, je fais entrer des produits issus de la nature qui ne coûtent rien au départ, je le mets dans une belle machine, je mets du travail dessus, et puis je sors un produit qui a de la valeur.
Bon.
Et Regen dit que, au contraire, c'est les ressources naturelles qu'on fait rentrer dans le processus économique qui ont de la valeur, et ce qui en est rejeté, c'est des déchets sans valeur. Alors, il y a. On a bien compris que ce qui sort du processus économique, c'est. Il y a deux sorties. Il y a une sortie avec nos produits, nos biens de consommation, et puis de l'énergie dissipée, puis on verra de la matière aussi dissipée. Bon, ben, il dit que tout ça, c'est des déchets sans valeur. Alors, la partie du haut, on comprend bien, c'est sans valeur. C'est toujours la même énergie qui est entrée, mais comme elle est passée en énergie liée de haute entropie, elle est sans valeur pour nous, parce qu'on ne pourra plus jamais la récupérer. Bon. Et
c'est possible quand même. On peut imaginer la réinjecter dans le système.
Oui, alors ben, c'est ce qu'on fait. Alors, là, on améliore. On améliore. Hein. Bon, c'est-à-dire qu'on a une chaudière, les chaudières maintenant Et moi, j'ai une chaudière à gaz, elle est grande comme ça, pour chauffer une énorme maison. Avant, on avait une chaudière qui était... Parce que ce qui sort, on le récupère. Mais bon, on récupère, on améliore la technologie. C'est comme une voiture voiture américaine des années 50, 12 cylindres en V qui faisait 25 litres au 100. Et maintenant, moi j'ai une petite 208 qui fait 4 litres. Bon, mais bon, on fera 4 litres, 3 litres 8, 3 litres 7, ça ne fera jamais 0 litres. C'est-à-dire qu'on va améliorer, Et ça, Greenwald le disait. Greenwald reproduisait des choses que disait Roeggen. C'est-à-dire que, évidemment, les contestataires disaient à Roeggen, oui, mais c'est vrai, il y a une dissipation, il y a une déperdition, mais les innovations technologiques, on va améliorer, on va faire en sorte qu'on va récupérer. D'abord, on va dissiper moins, la transformation sera plus... le TRE sera plus haut, la transformation sera plus complète, et puis ce qui va sortir, on va le récupérer, et oui, on va améliorer, mais on n'est pas toujours buté contre une partie incompressible qu'on ne pourra pas récupérer. Bon, et ça, personne ne le conteste. Personne ne conteste que, enfin, à ma connaissance, alors là je me tourne vers nos amis scientifiques, à ma connaissance il n'y a pas de scientifique qui dit, parce que ça veut dire, on a trouvé le mouvement perpétuel.
C'est Carnot, c'est 34%.
On va pouvoir améliorer, et on en est proche, on s'approche du taux de... C'est alors, il y a le fameux principe... des rendements décroissants qu'on connaît. Là, on n'est pas dans, on est dans le principe du plafonnement des améliorations. Améliorations, il y a un moment où c'est aussi comme les performances sportives. Bon, si on prend en athlétisme 100 mètres, bon, ben ça fait maintenant 20 ans qu'on n'arrive pas à descendre en dessous de 9 secondes 8 ou 100 mètres. Voilà. Et bon, à part se bourrer de stéroïdes et machin, pour mettre un booster à hydrogène.
Mais ça dégrade. Mais ça dégrade si on se booste avec ça.
Donc.
Et l'entropie.
Voilà. Donc déchets sans valeur. Or, cette différence qualitative se trouve confirmée, quoi qu'en termes différents, par une branche particulière et même singulière de la physique, connue sous le nom de thermodynamique. Du point de vue de la thermodynamique, la matière énergie absorbée par le processus économique l'est dans un état de basse entropie et en sort dans un état de haute entropie. Donc voilà cette histoire de dégradation qui est quelque chose qu'on comprend bien, que tout profane peut comprendre, tout qui se dégrade. Alors, l'image de la des gaz d'échappement, la voiture, les gaz d'échappement, c'est une partie de l'énergie sous forme de pétrole qu'on a mis dans la voiture. Une partie s'est transformée en énergie mécanique, cinétique, je ne sais pas, qui fait tourner les roues. Puis une partie, elle s'en va par la nature et voilà, elle est dissipée. Bon, ça, on comprend bien. Et la formulation scientifique, c'est l'entropie.
Oui, mais maintenant, on va pouvoir garder l'énergie. Vous parliez de voiture qui part, l'énergie qui s'en va dans...
On
va recapter
cette énergie qu'on
a créée.
On est limité. On peut pas.
Pas 100%.
Non, pas 100%.
Après, les chaudières avec un rendement à 100%.
Aujourd'hui, on est des. Alors, il y a deux problèmes contre lesquels on bute. Il y a le problème du 100%. Hein. Bon, ça. Hein. Et puis, il y a un problème technique. On peut pas. Suivant le type. De machines, alors par exemple l'automobile, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Une automobile qui est en train de rouler, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Pas récupérer. Techniquement, des choses qui sont impensables. Alors, non seulement il y a des choses qui sont impensables, par exemple récupérer l'énergie sur une voiture qui est en train de rouler, enfin, bon, je ne me suis pas penché sur le problème techniquement, mais ça paraît compliqué. Et puis, n'oublions pas toujours la rentabilité thermique de l'opération. C'est-à-dire, c'est bien joli, je vais récupérer, c'est-à-dire je vais mettre un dispositif, Ce dispositif, il va être, ça va être encore de l'énergie matière, on s'en sort pas. Ça va être un dispositif avec des tuyaux, je sais pas quoi, et puis qui va marcher avec de l'énergie. Voilà.
Bon. Là on a quand même des choses qui existent à ce niveau-là. Dans les voitures, simplement, on a des batteries qui se rechargent grâce à l'alternateur, qui est grâce à l'action mécanique, oui. Et transforme en énergie chimique dans la batterie. Et ensuite, l'énergie chimique, on la retransforme pour démarrer la voiture.
Oui.
On a quand même des choses comme ça qui.
Ah, mais ça, c'est longtemps. Ça, c'est pas nouveau. Dès que la voiture a commencé. Alors, il faut savoir aussi, pour une petite histoire, que on ne parle aujourd'hui de la voiture électrique, c'est formidable. Les premières voitures étaient des voitures électriques. On parle de l'hydrogène, la pile à combustible, c'est une invention qui date de 1830, 1840. Bon. Et les premières voitures étaient des voitures électriques. Le record de vitesse de la voiture, c'est la jamais contente, c'était une voiture électrique. Et je crois qu'au début du siècle dernier, dans les usines Ford, on avait deux tiers des voitures qui étaient des voitures électriques et les voitures thermiques. Bon, la voiture thermique a pris le dessus à partir du moment où le pétrole est devenu extrêmement rentable à extraire. C'est-à-dire qu'on a eu des champs faciles de pétrole. Ouais, il suffisait, on voit James Dean dans... un exemple que je cite souvent parce que dans le film Géant, qui, grosso modo, il prend un tuyau, il le plante et puis ça gicle. Donc c'était beaucoup plus facile que d'aller creuser dans les mines de charbon pour avoir de l'anthracite, etc. Donc ça, c'est pas nouveau, mais on était parti sur la récupération. Ah oui, les alternateurs. Bon, ben donc depuis le début, on sait bien qu'un moteur qui tourne, on met une dynamo, et puis après on a une batterie, et puis ça stocke. Alors ça stocke, ben voilà, toujours pareil, ça stocke un petit peu. Il y a le problème de la batterie, il y a le problème de l'usure de la batterie. Voilà.
On pourrait stocker l'équivalent que l'on va consommer.
Ben si
on consomme 2 litres, par exemple, on peut stocker 2 litres. Donc en fait, c'est 100.
Non, mais. Ouais. Oui, mais, non, mais justement, si ça pouvait se faire, il y a un autre qui se serait fait.
Tu veux dire, non, j'en sais rien du tout, quoi.
Oui, alors, si on veut effectivement raisonner comme ça en termes très, très élargis, c'est-à-dire, travailler l'idée sur laquelle on peut avoir quelque chose qui va s'alimenter, tourner tout seul. Bon. En termes d'énergie, on peut rêver à ce truc-là. Bon. Mais c'est la matière. Pour essayer de solder, je dirais, la discussion, en termes de matière. Là, en matière, on a une dégradation de la matière. Chaque fois qu'on utilise la matière, on la dégrade. Et on nous parle du recyclage. Mais le recyclage, il faut de l'énergie et on en perd. Je recycle 100 grammes de fer, j'en retire 90, et 90 je le recycle, j'en retire 80, etc. Sans même parler de l'énergie qu'il faut pour le recycler. Et là, bon, c'est le bilan thermique global, on a une perte de la matière. D'où, là on anticipe, la quatrième loi de la thermodynamique qui est proposée par Hogan, qui est la loi de la dissipation, l'entropie de la matière, elle aussi, elle se dissipe, la matière. Et là, alors par contre, là, on est... parce que c'est vrai que sur l'énergie, bon, c'est vrai que ça ne marche pas. Bon, mais, je dirais, l'esprit commun, monsieur tout le monde, il peut rêver d'une énergie qui se renouvelle toute seule. Pourquoi pas, on peut en parler. Mais la matière, comment est-ce qu'on va... Alors, là, il y a aussi le rêve qu'on va fabriquer. Il faudrait pouvoir fabriquer des matières avec de l'énergie. Bon, c'est vrai que E égale MC2, qui a un rapport entre la matière et l'énergie. Mais c'est, après, c'est toujours, on se prend la queue aussi. Il faut de l'énergie pour faire de la matière, il faut de la matière pour faire de l'énergie. Bon, je crois qu'il faut rester sur le fait que c'est chaque fois qu'on est le chasseur-pêcheur-cueilleur, hein, il n'entreprenait aucun processus industriel, et donc il ne modifiait absolument pas l'entropie de notre espace vital. Partir du moment, c'est ça la grande idée, à partir du moment où on démarre, qu'on modifie la nature, on est inexorablement amené à chaque fois perdre un peu, et il n'y a pas d'issue. C'est ça l'idée. Processus industriel, il n'y a pas d'issue. L'issue, c'est qu'il ne reste plus rien.
Ça ne prédit pas un bel avenir, quoi.
Ah ben, la question, c'est combien de temps? Parce que c'est pas pareil si c'est 10 siècles et si c'est 10 ans. Le débat tout de suite change de...
Il y avait un chiffre sur le CO2, par exemple, dans l'atmosphère. Si on arrêtait aujourd'hui d'en éjecter dans l'atmosphère, il faudrait plus de 10 000 ans pour que l'atmosphère revienne à son niveau normal de post pré-révolution industrielle. 10 000 ans pour l'échelle humaine, c'est beaucoup, hein, finalement. Donc on voit qu'on est limité. Donc.
Alors là, bon, ça c'est. CO2, on est sur les externalités négatives. Hein, bon, mais si on parle simplement du processus, restons sur l'analyse du processus économique, c'est-à-dire ce processus économique qu'on connaît bien. Hein, on sait bien comment ça marche, on sait que c'est la métallurgie. C'est la mise en œuvre dans des usines. Tout. Je cite souvent une vidéo de Jean Covici, qui est excellente de ce point de vue-là. Elles sont toutes excellentes. Mais là, il intervient devant la commission de l'Assemblée nationale, la commission d'énergie. C'est des gars députés qui ne connaissent rien en énergie. Et il commence son intervention en disant « Bonjour messieurs ». Voilà, tout ce que vous êtes assis, sur quoi vous avez posé vos cahiers, vos stylos, tout ça, c'est de la matière naturelle qui est appelée à se dissiper. Bon, déjà, j'ai un froid.
Qu'est-ce qui me dit là?
Voilà, c'est ça l'objet, en fait, de la réflexion. Dans l'introduction de la thermodynamique dans l'économie, c'est que le processus économique tel qu'il est, le processus industriel, qui utilise, on a vu qu'il ne fallait pas trop dire consommer, qui utilise de la matière et de l'énergie, en fait, intervient sur l'écologie globale, écologie au sens de lieux et conditions d'existence des êtres vivants, les rapports qu'ils établissent avec leur environnement. Ça veut dire que l'économie, c'est aussi de la biologie, puisqu'on utilise des ressources naturelles qui sont fabriquées par le cosmos. L'économie, c'est de la biologie, donc c'est de la bioéconomie. Et ce processus, qui est un processus continu, puisque tous les jours, on utilise de l'énergie matière dans les usines, ce processus, où est-ce qu'il mène ? Est-ce qu'il est durable? Bon, alors là, est-ce qu'il est durable quand on lit, quand on voit la thermodynamique et l'entropie, on se demande comment ça peut être durable, et où ça nous mène, et ce que le délai. Voilà les questions qui sont posées. Pour aujourd'hui, et là, on va arrêter, quoi. Mmh. Parce que c'est on a dissipé notre temps de réflexion.
Ça, on est mal, là.
Hein?
On est mal.